Les cours du Collège de France, Marc Hainaut, chaire chant, cordes et gravité.
Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière leçon de mon cours de cette année. Et ce que je voudrais faire, c'est d'abord terminer ce que j'avais commencé la semaine passée sur l'équation de Wheeler de Witt et les espaces asymptotiquement plats. Et puis, vous parlez de l'équation de Wheeler de Witt dans les espaces asymptotiquement antidécitaires. Alors, avant de commencer, j'ai ici une liste de références qui reprend, disons, toutes les leçons. Donc, ces références valables pour toutes les leçons. Et j'ai complété la liste donnée il y a 15 jours. Donc, c'était déjà complet la semaine passée par deux références en plus pour cette dernière leçon. Voilà, alors donc je vais d'abord terminer la leçon de la semaine passée, et donc peut-être quelques rappels pour rafraîchir la mémoire. Donc j'avais tout d'abord défini de manière précise ce que j'entends du point de vue hamiltonien pour des espaces-temps asymptotiquement plats. Donc en fait, je dois vous donner les conditions sur les variables de l'espace des phases à l'infini. Donc les variables de l'espace des phases, c'est la métrique en tout point d'espace, le moment conjugué lié à la courbure extrinsèque en tout point d'espace. Et je vous avais dit, voilà les conditions qu'on impose, et elles obéissent à un certain nombre de propriétés agréables, dont j'ai parlé la semaine passée. Donc là-dessus, je ne vais pas revenir, donc je vous donne juste la réponse. Enfin, ce à quoi on était arrivé. Donc la métrique va dévier de la métrique plate, et j'utilise des coordonnées qui sont asymptotiquement cartésiennes, donc la métrique plate c'est delta ij, par des termes d'ordre 1 sur R, et le coefficient de ces termes d'ordre 1 sur R peut dépendre des angles, donc c'est-à-dire de la normale normée à la sphère, donc c'est effectivement une manière de paramétriser la sphère, donc ça c'est une manière de dire qu'on a une fonction des angles. Alors, pour la courbure extrinsèque, plus précisément pour les moments conjugués à la métrique, dans l'espace de Minkowski, ça tend vers zéro. C'est nul, pardon. Alors, donc ici, on va demander que ça tende vers zéro. Comment ? Ben, par des termes, là, on le voit en regardant les solutions, qui diffèrent de zéro, donc par des termes d'ordre 1 sur R carré. Mais ces conditions ne sont pas suffisantes, il faut les renforcer, et la manière dont on les renforce, c'est par des conditions de parité pour la transformation antipodale de la sphère, donc qui envoie tout point sur le point antipodal correspondant, donc ce qui revient à dire que, que n est envoyé sur moins n. On demande que les coefficients hij soient pairs, et que les coefficients pij soit impair, mais en fait, on le demande non pas strictement, mais à un diffeomorphisme près. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des termes qui violent ces conditions de parité, mais ces termes doivent avoir la forme d'un diffeomorphisme. Alors, donc ça nous définit l'espace des phases de manière précise, et ça obéit à toute une série de propriétés agréables, comme ça contient toutes les solutions, ça rend l'action finie. Et ça contient, c'est aussi asymptotiquement invariant pour les transformations de points carrés. On va voir qu'il y a plus dans quelques minutes, mais pour le moment, il y a points carrés, et en particulier les translations dans le temps. Donc si je considère une déformation qui asymptotiquement tend vers une translation de 1 dans le temps, on peut lui associer un certain générateur, et je vous avais expliqué qu'en fait ce générateur, donc, est une fonction de l'espace des phases, donc des variables canoniques, mais qui va dépendre aussi du champ de vecteurs qu'on s'est donné. C'est donné, comme toujours, par une intégrale sur tout l'espace des contraintes multipliées, donc mu c'est perpendiculaire et tangent, donc par un terme qui est nul en vertu des contraintes, mais il faut ajouter un terme de surface, et je vous avais expliqué la logique derrière ce terme de surface. On veut en fait que le générateur soit bien défini, soit un générateur hamiltonien. Et ce terme de surface, dans le cas où je considère une déformation qui asymptotiquement est une translation de 1 dans le temps, ben c'est juste alors la masse, l'énergie, et on pourrait tout à fait préciser l'énergie même, et c'est ce qu'on appelle l'énergie d'ADN. Et elle prend cette expression. Et donc je vous ai expliqué comment on arrivait à ce terme de surface, mais l'important, donc ce terme, c'est l'énergie ADM pour Arnoïde, Deser, Meissner, et c'est en général différent de zéro. Et donc en général, le générateur ne va pas être nul en vertu des contraintes, mais va se réduire au terme de surface. Et donc, si vous regardez les solutions de l'équation de Wheeler de Witt, donc d'abord, elles devront bien entendu être annihilées par les contraintes. Donc maintenant, c'est les opérateurs quantiques. Donc on demande à ce que les états soient invariants. En fait, pour toute transformation, pour tout générateur de transformation où l'excite tend vers zéro à l'infini, donc où ceci est absent. Et puis, si maintenant je considère un générateur qui asymptotiquement tend vers 1, donc ça va me donner une équation de Schrödinger en fonction du temps T asymptotique minkowskien, donc il y a une structure de Minkowski à l'infini, avec un H, celui-ci, qui est différent de zéro. Et donc on a une évolution de ces solutions en fonction du temps asymptotique, et donc là on a, disons, peut-être un cadre qui est plus traditionnel et plus familier, avec une vraie évolution dans le temps T, et puis il y a des conditions qui impliquent une forme d'invariance de jauge. Alors, dans le cas des espaces asymptotiquement plats, les translations dans le temps, donc ça c'était plus ou moins là où j'étais arrivé, les translations dans le temps ne sont pas les seules, il y a beaucoup d'autres symétries asymptotiques, et je voudrais montrer quelles sont ces autres symétries asymptotiques et comment elles agissent sur les solutions de l'équation d'Euler de Witt. Donc ça correspond, donc ceci à les rappels, c'était 1 et 2 de la semaine passée, donc 3, ces symétries asymptotiques et en fait on va voir apparaître, et donc en fait c'est ici qu'on voit apparaître le groupe de Bondy, bon, je vais l'écrire explicitement, Meissner et Sachs, donc on appelle aussi BMS. Donc une fois qu'on s'est donné des conditions limites, on peut se poser la question, quels sont les difféomorphismes, ou quelles sont les déformations, donc dans le langage hamiltonien, c'est quelles sont les déformations des hypersurfaces de genre espace sur lesquelles mes états sont définis, quels sont les difféomorphismes qui préservent les conditions asymptotiques, et quels sont les générateurs hamiltoniens correspondants. Alors je ne vais pas vous faire le calcul détaillé ici, parce que ça prendrait trop de temps, et puis ça se trouve dans les références que je vous ai données. Je vais vous donner la solution en expliquant. Donc en fait, il faut trouver les déformations les plus générales qui préservent les conditions limites. Et il n'est pas étonnant, puisque on a des espaces asymptotiquement plats, qu'on retrouve le groupe de Poincaré. Donc on va avoir en particulier Poincaré. Alors, en Poincaré, ça veut dire quoi? Eh bien, il va y avoir des termes correspondant au groupe homogène de Lorentz, c'est-à-dire les transformations de Lorentz propres et les rotations spatiales, qui ont la propriété de croître linéairement en R quand vous vous éloignez de l'origine. Donc, en fait, je vais écrire les symétries asymptotiques en puissance de 1 sur R. Et bon, en fait, ça commence avec la puissance 1 en R. Donc le premier terme, ça va être les transformations de Lorentz propres. Et puis je vais avoir les rotations spatiales. Alors, les rotations de Lorentz propres, il y a aussi donc les BIJ sont antisymétriques. Ici, c'est antisymétrique, donc je dois aussi avoir un terme BK perpendiculaire fois X0 que je mets ici. Mais X0 à X0 constante, c'est une constante et je peux l'absorber dans le terme de translation spatiale. Donc, je ne vais pas l'écrire explicitement. Et puis après, je vais avoir des termes d'ordre 1. Et là, c'est là qu'on va trouver les translations de temps, les translations d'espace. Mais en fait, on obtient beaucoup plus. On obtient non des termes d'ordre 1, mais qui peuvent dépendre des angles. Alors avec les conditions de parité qu'on s'est imposées, la manière dont ça apparaît dans le formalisme hamiltonien est la suivante. Donc on a un terme qui dépend des angles ici, que j'appelle T de N, et puis on va avoir des termes d'ordre 1 sur R. Alors le terme d'ordre 1 sur R est plus bas, je ne les écris pas. Pourquoi je ne les écris pas ? Parce qu'ils ne vont pas contribuer au terme de surface, et comme ils ne contribuent pas au terme de surface, c'est des transformations de jauge propres qu'on peut factoriser, enfin qui n'ont pas d'implication physique. Donc je n'écris que ce qui a une implication physique. Et si je vais aussi avoir des termes d'ordre 1, plus des termes d'ordre 1 sur R que je n'écris pas explicitement, parce qu'à nouveau, ils ne contribuent pas au terme de surface. Et les termes d'ordre de 1 ici sont contraints par les conditions de parité. En fait, T de N doit être pair. Et WK, bon, ça c'est un peu... c'est la cohérence de la théorie, il faut que les boosts soient bien définis, transformation canonique, etc. En fait, WK, ce n'est pas trois vecteurs arbitraires fonction des angles, c'est donné par le gradient d'une fonction des angles, que j'écris RW de N. Donc ça, pour que ce soit d'ordre 1, il faut que ce soit d'ordre R ici. Donc j'écris les choses comme ça. Où WN est impair. W, pardon, est impair. Bon. Donc, j'ai pas expliqué d'où ça... Donc, que l'ordre soit l'ordre 1... On le voit, on peut voir que ceci préserve bien les conditions asymptotiques, donc tout ça c'est bon. La forme spécifique ici, c'est dicté par la cohérence de la théorie, on veut que l'action soit bien invariante pour les boosts, et pas juste invariante à un terme de surface non nul près, il faut que les termes de surface soient nuls, donc ceci va imposer cette forme-ci à WK. Mais la conclusion, c'est que en fait, les transformations d'ordre 1 qui apparaissent comme symétrie asymptotique dépendent d'une fonction paire des angles et d'une fonction impaire. Donc c'est la même chose que si on avait une fonction des angles sans parité particulière. Alors, si ici c'est une fonction paire, je peux la décomposer en harmonique sphérique. Ça va commencer par le terme d'ordre L égale à 0, puis j'aurai L égale 2, puis L égale 4, puisque les harmoniques sphériques possèdent cette propriété-là lorsque L est pair. Le terme L égale à 0, ça correspond aux translations standards de temps. Le terme ici, puisque c'est impair, on peut développer cette fonction en harmonique sphérique également. Je vais avoir des harmoniques sphériques en L égale 1, il y en a 3, puis L égale 3, puis L égale 5, etc. Pour L égale 1, les trois harmoniques sphériques ici, si vous calculez WK, vous allez voir que ça va juste vous donner les translations d'espace. Il y en a bien 3. Mais au-delà, donc L égale 2, L égale 3, L égale 4, L égale 5, donc tous les harmoniques sphériques, ce n'est pas des translations, c'est des transformations plus compliquées qu'on appelle les supertranslations. Donc L supérieur ou égal à 2, supertranslation, et il y en a une infinité. En d'autres termes, on constate que le groupe de symétrie asymptotique, est une extension infinidimensionnelle du groupe de Poincaré. Donc Poincaré, ça correspond à cette première partie et à L égale à 0 et L égale à 1, mais il y a beaucoup plus, des supertranslations pures, je vais appeler ça. Oui, parce que parfois je vais appeler supertranslation celle-ci, les pures et les translations. Donc quand je veux bien faire la distinction, je dirais supertranslation pure. Donc on a un groupe beaucoup plus grand, infinidimensionnel, bon, ce qui est intéressant. Alors, par les mêmes recettes, par les mêmes principes que ce qui nous a permis d'identifier le terme de surface, à ajouter au terme de volume proportionnel et contrainte dans le générateur hamiltonien, on peut faire le même calcul, mais pour ces symétries asymptotiques plus générales, et on va trouver un générateur qui va dépendre... alors, comment je l'appelle ? Je l'appelle P. Donc, je peux associer à cette transformation un générateur que j'avais appelé P0, xi perpendiculaire, xk, qui va être donné par l'intégrale de surface, pardon, l'intégrale de volume xi mu h mu t3x, et puis vous allez avoir un terme de surface, et vous allez avoir un terme de surface pour chacun des paramètres. Et donc, je vais écrire ça comme ça, vous allez avoir un demi b mu nu m mu nu. Donc ça, c'est pour les paramètres B. Donc on va voir ici, lorsque B prend une valeur, mu prend une valeur temporelle et nu d'espace, ben vous aurez les générateurs des transformations de Lorentz pures, les boosts. Et puis lorsque ceci, c'est des indices spatiaux, ben vous aurez les générateurs des rotations spatiales. Mais je vais aussi avoir un terme de surface correspondant à ces paramètres que je vais appeler B de TW. Donc ça va être une donnée par une intégrale sur la sphère qui fait apparaître explicitement T et W. Alors je ne vais pas écrire ni dériver explicitement ici ces intégrales, donc c'est intégrale sur la sphère à l'infini. Hein. Donc ceci et ça, c'est des intégrales de surface, donc intégrale sur la sphère à l'infini. S2 à l'infini, qui en général sont différentes de 0. Ce qui veut dire que ces générateurs, même quand les contraintes sont satisfaites, sont en général différentes de 0. Alors, on peut calculer les crochets de Poisson de ces générateurs, donc l'algèbre de ces générateurs, et on retrouve une algèbre qui avait été étudiée précédemment dans le cadre de l'infini de genre Lumière par Bondy, Metzner, Sachs, c'est-à-dire l'algèbre BMS des transformations asymptotiques, qui est décrite dans une base légère différente ici, puisqu'on a scindé les choses en paires et impaires, ce qui est pas une chose naturelle à faire à l'infini de genre Lumière, mais bon, on peut reconstruire, passer d'une base à l'autre, c'est la même algèbre. Alors, que dire d'autre ? Donc, en particulier, cette algèbre vous dit que les supertranslations pures et translations ordinaires forment une algèbre invariante, forment un idéal abélien. Donc les translations, on le sait bien, que ça forme, que ça commute, mais en fait ça commute avec les supertranslations aussi, et les supertranslations entre elles commutent. Mais elles se transforment de manière non triviale pour les transformations de Lorentz, et donc BMS c'est un groupe semi-direct, ou c'est une algèbre, si je regarde l'algèbre, une somme semi-directe de cet idéal abélien, si je parle au niveau de l'algèbre, par l'algèbre des transformations de Lorentz homogènes. Donc c'est somme directe. Pardon, pas, semi-direct, je ne sais pas pourquoi j'ai dit direct, je corrige. Hein. Somme semi, je souligne, puisque je me suis, je pense, mal exprimé. Donc c'est puisque les supertranslations se transforment sous Lorentz, donc c'est pas juste, ça commute pas. A et Lorentz homogène, appelons ça L. Et donc effectivement, ben, une manière de voir ça, c'est de calculer les crochets de poisson. Hein, on est en hamiltonien, on a une structure symplectique, on calcule les crochets de poisson et on trouve ça. Et ça correspond à ce que les gens savaient sur BMS par d'autres voies. Alors, ce qui est important à voir aussi, c'est que les générateurs de cette transformation sont des observables, c'est-à-dire que ces générateurs sont invariants pour les transformations, pour les difféomorphismes qui tendent vers 0 à l'infini. Donc, P0. Donc, on a vu que là. Hein, les quantités observables, c'est les quantités qui sont invariantes de jauge pour les transformations de jauge propres. Celles-ci sont caractérisées par des xi-mu qui tendent vers 0 à l'infini. Donc, c'est ce qui est à partir d'ici. Et on peut montrer que le crochet de poisson de pi 0 avec de tels difféomorphismes est nul. Et donc les pi 0 est nul en vertu des contraintes. Et donc les pi 0 forment des observables. Donc on a une infinité en fait d'observables donnés par toutes ces charges BMS. Alors, donc on aura, donc pour être tout à fait donc ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire que le crochet de poisson avec le générateur que je vais écrire ici d'un zeta mu qui tend vers 0 à l'infini, c'est 0.
En vertu des contraintes.
En vertu des contraintes, oui. Donc peut-être pour être tout à fait cohérent, je vais écrire ça. Alors ça implique que si maintenant je passe à la théorie quantique, eh bien, j'aurai bien entendu toujours que mes états doivent être annihilés par les contraintes. Bon, ça, c'est l'invariance de jauge. Et si je travaille dans la représentation où la métrique est diagonale, ça me donnera l'équation d'Euler de 8, mais je ne. C'est pas forcé, donc on peut travailler dans n'importe quelle représentation. Mais ce qui va généraliser l'autre équation, c'est qu'en fait, maintenant. Bon, cette équation n'est qu'un cas particulier parce qu'on a regardé juste une symétrie asymptotique particulière, les translations dans le temps. Mais pour toutes les symétries asymptotiques, on aura une équation du même type. C'est-à-dire que les. Pourquoi ? Ben parce qu'on a des observables. En fait, si vous regardez une solution de l'équation d'Euler de 8 et que vous agissez avec P0 dessus, je prétends qu'on a toujours une solution de l'équation d'Euler de 8. Donc, voyons si c'est vrai. J'agis avec H mu. Ou pour être tout à fait précis, je devrais multiplier par zeta mu avec un zeta mu qui tend vers 0 à l'infini. En fait, même, je devrais écrire ça comme ça ici. Puis je commute, j'utilise ceci, donc je peux le mettre de l'autre côté, et puis donc, puisque h mu est égal à 0, je vois que ceci va être égal à 0 aussi. Et donc, ça veut dire que les générateurs de BMS envoient une solution de l'équation d'Euler de 8 sur une solution de l'équation d'Euler de 8. Et donc, dans l'espace des solutions de l'équation d'Euler de 8, on va avoir une représentation des générateurs BMS. Et cette représentation ne doit pas être triviale, hein, parce que c'est pas des ceci c'est des observables non triviales, et donc on peut avoir. Il ne faut pas imposer que les états physiques soient invariants par BMS, il faut juste imposer qu'ils soient invariants pour les transformations, pour les difféomorphismes qui tendent vers 0 à l'infini. Et donc on va avoir une action. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut se poser la question, est-ce que ça va être une action unitaire? Alors là, on doit tenir compte de ce que je vous ai dit sur la manière de définir le produit scalaire, parce que pour parler d'unitarité, il faut savoir comment on calcule des amplitudes. Et la bonne manière, comme je vous l'ai dit, c'est de passer alors, enfin, une des bonnes manières, une manière, disons, puissante aussi, c'est BRST. Donc je vais écrire, donc ça je vous avais expliqué, donc formaline BRST. Donc on va introduire, comme je vous l'ai dit, le générateur BRST, qui commence comme les contraintes multipliées par les fantômes. Donc je vais introduire des fantômes, c'est mu, et leur moment conjugué, que j'avais appelé P bar mu. Et puis je vais aussi introduire... les multiplicateurs de Lagrange, lambda mu, donc c'est réellement lambda perpendiculaire et lambda k, et leur moment conjugué que j'appelle b mu, parce que ça, dans certains contextes, c'est ce qu'on appelle parfois le champ b. Et puis, j'impose les contraintes que ces b mu sont égaux à zéro, hein, je l'avais expliqué dans les leçons précédentes, et donc puisqu'il y a des contraintes supplémentaires, il faut des fantômes supplémentaires que j'ai appelés c bar mu et PMU. Donc les objets avec des indices au-dessus, en fait, sont le nombre de fantômes 1, et ça c'est le nombre de fantômes moins 1, c'est la variable conjuguée. Bon, alors oméga est donné par ça, plus un terme qui fait apparaître les moments conjugués aux fantômes fois les fonctions de structure de l'algèbre, entre guillemets, des contraintes. Et il n'y a pas plus que ces termes-là, même si ce n'est pas vraiment une algèbre, une vraie algèbre, avec des constantes de structure. Donc en fait, ce qu'on obtient, c'est... Donc je l'écris, je pense que je l'avais déjà écrit, mais donc c'est ce que le calcul donne. Hein. Donc à nouveau, c'est la condition de nilpotence qui dit que ça doit être présent. Donc vous voyez apparaître ici les G, donc on n'a pas une vraie algèbre, c'est à cause de ça. Donc ça c'est, et ça vient de la relation de commutation, enfin du crochet de Poisson, H perpendiculaire avec H perpendiculaire qui donnait du delta dérivé et du HK avec un G comme coefficient. Donc hein, on lit ça à partir de l'algèbre. Et puis comme j'ai ajouté le secteur non minimal, hein, c'est comme ça que je l'avais appelé, il faut ajouter les nouvelles contraintes B mu égale à 0 avec leur fantôme qui est P mu. Et comme c'est abélien, il n'y a rien en plus. Alors, ce que je vous ai expliqué aussi, c'est que pour tout observable, on pouvait définir un opérateur qui commutait avec le générateur de la transformation BRST, et donc P0 peut être complété, c'est pour ça que j'ai mis un 0, en un P qui va commencer comme P0, mais on va ajouter des termes, et le but c'est que je vais écrire les choses d'abord classiquement. Le crochet de Poisson de P avec oméga soit égal à 0. Je vous ai dit, on peut toujours le faire, parce que les observables BRST, la cohomologie, bon, en plus, c'est pas unique. Ça devient unique quand on pense en termes de classe de cohomologie BRST et qu'on identifie les choses à des contraintes près. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que à tout observable, on peut associer un tel P, et à toute solution de cette équation, on peut retrouver l'observable correspondant en oubliant les termes qui contiennent les fantômes. Alors, Oui, peut-être. Comment peut-on trouver P? Mais c'est très facile à faire. Je vais vous dire tout de suite comment on fait. Mais avant, je dois préciser les conditions aux limites. Donc, on veut que oméga psi soit juste équivalent à l'invariance de jauge. C'est-à-dire, on veut que ceci soit équivalent à ça et à rien de plus. Parce qu'on ne peut pas imposer plus, a priori. Mais donc, la caractéristique de cette transformation-ci, c'est qu'elles engendrent des difféomorphismes qui décroissent vers zéro à l'infini. Donc ce qu'on va imposer, puisqu'ici on a des difféomorphismes avec un paramètre qui est donné par les fantômes, on va imposer que les fantômes tendent vers zéro à l'infini. Ici aussi. Donc toutes ces variables-là qui apparaissent auxiliaires, pour ne pas que ça change la cohomologie et qu'on... on n'introduise pas subrepticement par ces conditions-ci des conditions trop fortes qui nous rendraient les états invariants pour des transformations BMS non triviales, on va imposer que toutes ces variables-là tendent vers zéro à l'infini. Hein, donc c'est l'analogue des paramètres qui définissent des transformations de jauge propres. On ne veut pas inclure ça, parce que sinon, ce serait trop fort d'imposer oméga psi égal à zéro. Alors, donc ça, c'est le premier point. Notre problème est de trouver... Alors, oui, aussi, une parenthèse quand même, c'est qu'on peut regrouper, on peut inclure les symétries BMS et leur associer des fantômes, ça c'est dans un développement que je ne vais pas faire ici, et regrouper ces fantômes associés à la symétrie BMS avec les fantômes qui sont ici. Le mieux, c'est dans le cadre des antichambres, de le formuler des antichambres, mais je ne vais pas le faire ici. Donc ici, je vais, disons, suivre l'approche orthodoxe, classique, où BRS, c'est juste les symétries de jauge. Bien, alors, comment trouver les P, mais en fait, c'est les extensions BRST invariantes de mes observables. Mais en fait, y a une manière de le faire par force brute, si je puis dire, mais il y a une manière plus élégante qui consiste à procéder de la manière suivante, qui consiste à se poser d'abord la question, supposons que je considère des observables triviales correspondant à des xi perpendiculaires et xi k qui tendent vers zéro à l'infini. Donc dans ce cas-là, on s'attend à ce que ce soit BRST exact. Et si c'est BRST exact, peut-être qu'on peut même deviner le terme avec lequel, dont c'est le crochet, dont le crochet de poisson avec oméga donnera c'est observable. Donc supposons que xi mu tende vers zéro à l'infini. Alors comme il y a un xi mu qui est défini là et qui ne tend pas nécessairement à l'infini, je vais l'appeler les autres zeta mu. Donc je considère des zeta mu qui tendent vers zéro à l'infini et je veux définir l'extension BRST correspondante. Pour reprendre mes notations. Et donc on s'attend à ce que ce soit BRST exact. Et en fait, c'est très facile de deviner. Donc ça doit pouvoir s'écrire comme le crochet de poisson de K, d'un certain K avec oméga. Alors que vaut ce K? Eh bien, on peut le deviner. En fait, on a envie. Donc ça doit commencer. On doit reproduire, dans ce cas-là, on doit reproduire juste ceci. Il n'y aura pas de terme de surface si ça tend vers zéro à l'infini. Donc il faut trouver un K tel que le crochet de poisson avec oméga me donne quelque chose qui commence comme ça, Z, mais avec zeta mu, h mu. Or, h mu apparaît dans oméga. Donc en fait, ce qu'il faut prendre, c'est quelque chose qui fait apparaître, qui est zeta mu fois le moment conjugué à c mu, p bar mu. Donc on va dire, on va prendre k égale à l'intégrale d3x, zeta mu, p bar mu. Si je prends le crochet de poisson de ceci avec oméga, je vais avoir comme premier terme qui va apparaître, effectivement, zeta mu h mu. Et puis je vais avoir toute une série de termes qui vont compléter et qui contiendront les fantômes, les moments conjugués aux fantômes. Donc, oui, ceci aussi, c'est bien le nombre de fantômes moins 1, hein, puisqu'il faut moins 1 et 1 pour avoir 0 ici. Donc, il est clair que ceci commence comme ça doit. zeta mu, h mu, et puis il y aura des termes qui contiennent les fantômes. Et par construction, il est clair que P zeta perpendiculaire zeta k oméga est égal à zéro, puisque tout ce qui est BRST exact est automatiquement BRST fermé, oméga carré est égal à oméga, oméga avec oméga c'est zéro. Hein. Décidément, je suis un peu dyslexique aujourd'hui. Donc, bon, on peut construire cet objet. Il n'est pas très intéressant parce qu'il est équivalent à zéro. Mais en tout cas, on peut le construire. Donc, si je regarde les générateurs de transformation de diffeomorphismes qui tendent vers zéro à l'infini, bon, ce sont effectivement des observables, mais des observables dans la même classe que l'observable zéro. Mais on peut construire explicitement. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le calcul, si vous regardez explicitement, faites explicitement ce calcul, il va y avoir des termes de volume et des termes de surface. Bon. Les termes de surface, puisque ceci est un objet de nombre de fantômes 1, ils vont toujours contenir un fantôme, au moins. Il peut y avoir deux fantômes et un p-bar, mais il va y avoir au moins un fantôme, puisqu'il faut avoir un nombre de fantômes 1. Alors 1, c'est 1 plus 0, mais c'est aussi évidemment 2 plus moins 1, mais il y aura toujours au moins un fantôme. Et les fantômes tendent vers 0 à l'infini. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les termes de surface dans ce calcul sont nuls trivialement parce que les fantômes tendent vers zéro à l'infini et sont nuls quelle que soit la manière dont zeta mu se comporte à l'infini. Et donc, si au lieu d'avoir un zeta mu qui tend vers zéro, dans la même expression ici, je mets un xi mu qui ne tend pas vers zéro, je vais obtenir le crochet de Poisson est toujours nul. Et donc, ce que je vais faire, je vais regarder les termes qui apparaissent ici, et je vais prendre les mêmes, et je vais les ajouter là. Et quand je vais faire ce calcul, et si je fais ce calcul-ci, à un moment donné, il faut faire des intégrations par partie pour que tout ce qui est de volume. On sait que les termes de volume sont identiquement nuls, parce que ça vient simplement de l'algèbre. Simplement, on attrape, quand on fait des intégrations par partie pour comparer les choses de volume, on peut attraper des termes de surface. Mais comme ils sont toujours multipliés par des fantômes qui tendent vers zéro à l'infini, ces termes de surface sont nuls. Et donc la même expression ajoutée ici va me garantir le même résultat. Et donc on peut construire assez facilement les observables BRST.
Excuse-moi, Marc.
Oui. Non, mais ils sont ici. Hein. Oui, les termes de... Non, ils sont déterminés d'avant. Ils sont déterminés par le pont. Et alors, en fait, les termes de bord, leur variation BRST étant proportionnelle au fantôme, sont automatiquement nuls. Hein, quand on va calculer la variation de ceci pour un diffeomorphisme, normalement, c'est vrai, on obtient la valeur asymptotique du diffeomorphisme. Bon, enfin, dans ce cas-ci, des fantômes,
donc,
qui est nul.
Non.
Le générateur des symétries, c'est tout.
Mais ils sont indépendamment des observables.
Oui, des observables, oui. Enfin, ça, c'est l'observable trivial. Hein.
Oui.
Mais si on veut que ce soit des choses qui ont une action bien définie, un crochet de Poisson bien défini, ça, c'est ce que j'avais expliqué la semaine passée, il faut mettre les deux ensemble. Donc, tout seul, ils n'ont pas d'un crochet de Poisson bien défini. Parce qu'il y a des termes de surface qui apparaissent ici, qui sont contrebalancés par ce qui vient de là. Donc, en tant qu'opérateur, et donc pour avoir des commutateurs bien définis, donc le crochet de Poisson bien défini, en tout cas, il faut ajouter ça. Mais ça, c'est inclus ici. Hein, quand j'écris, je prends le P0 tel qu'il est, et je dois le compléter par des termes en les fantômes. Mais je dis que ça, la manière dont c'est complété, dans la mesure où les fantômes tendent vers zéro, c'est comme si ça ne dépendra pas du comportement asymptotique de xi perpendiculaire et xi k. Oui. Donc classiquement, je veux qu'il puisse engendrer une action. Et donc, oui, bien sûr. Donc ça, c'est dans ma définition des choses. Je ne regarde que ce que j'ai appelé les fonctions hamiltoniennes, enfin, avec un champ de vecteurs hamiltonien correspondant bien défini. Bien. Alors, bon, si je veux dire les choses sur ADS. Alors, une fois qu'on a les observables BRST, je vous ai dit comment calculer les amplitudes, en tout cas des expressions formelles pour les amplitudes, je les ai données. Et il faut imposer aux états physiques d'être annihilés par oméga, mais il faut aussi imposer, enfin, la bonne représentation, c'est les états qui sont complètement remplis du point de vue des fantômes. Alors, on peut dériver des expressions, mais je pense que je vais faire l'économie de ça parce qu'il y a une idée dont je voudrais parler qui est importante et qui apparaît à la fois dans le cas en fait plat et ADS, mais ADS, on peut donner des résultats plus forts et je voudrais avoir le temps de la développer. Donc pour cette raison-là, je vais arrêter ici ce que j'ai dit concernant les espaces asymptotiquement plats. Et donc ce qui est important à retenir, c'est qu'à côté de l'équation d'Euler de 8, on a une action non triviale d'un groupe de symétrie qui contient en particulier les translations dans le temps, et donc ça nous donne une équation de Schrödinger traditionnelle, mais en fait on a un groupe infinidimensionnel qui est représenté sur les solutions de l'équation de Euler de 8, et si on passe au formalisme BRST, qui va être représenté dans l'espace des états physiques BRST, donc annihilé par oméga, et on peut écrire des amplitudes de transition et après éventuellement faire un développement perturbatif, mais ça je ne vais pas le faire ici. Donc ce que je voudrais faire, c'est me laisser suffisamment de temps, trois quarts d'heure, pour aborder anti-de-Sitter et un point particulier d'anti-de-Sitter. Donc est-ce qu'il y a des questions ici? Donc à nouveau, si vous êtes sur votre faim et vous voulez en savoir plus, il y a des références. Donc dans le cas... Voilà. Alors, dans le cas anti-de-Sitter, il y a des choses en fait qui sont exactement qui sont parallèles à ce que je viens de dire. Et puis il y a un point dont je voudrais parler, dont je n'ai pas encore parlé, qui est en fait il y a une sorte de feuilletage bien défini global. On peut introduire une condition de jauge qui permet d'avoir un feuilletage bien défini global et ça simplifie la discussion. Oui. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je passe à la dernière leçon en trois quarts d'heure. Bien. Donc, un autre espace. Donc, ici, le rôle important de métrique de fond était joué par la métrique de Minkowski. Pourquoi Minkowski ? Minkowski, c'est en fait la solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique égale à zéro qui possède le plus d'isométrie, à savoir le groupe de Poincaré. Si la constante cosmologique est négative, donc la solution qui joue le rôle de Minkowski, c'est ce qu'on appelle la solution anti-de-Sitter. Donc peut-être je... Donc espace asymptotiquement anti-de-Sitter. Et la métrique anti-de-Sitter, donc dans ce qu'on appelle les coordonnées statiques, c'est moins 1 plus R sur grand R carré dt carré plus 1 plus petit r sur grand R. Donc R, c'est la variable radiale au carré moins 1 dr carré plus R carré d je vais pas utiliser oméga, donc d θ carré plus sinus carré θ d φ carré. Alors on peut montrer que cette métrique qui s'appelle la métrique anti-de-Sitter est une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique qui est reliée à grand R par la relation grand R est 3 sur moins lambda, donc constante cosmologique négative, à la puissance 1/2. Donc ça, c'est ce qui va jouer le rôle de G0 mu nu, c'est la métrique de fond. Et pourquoi cette métrique joue un rôle particulier lorsque la constante cosmologique est négative ? Parce qu'en fait, c'est la solution des équations d'Einstein qui possède le plus, avec constante cosmologique négative, qui possède le plus d'isométrie. Son groupe d'isométrie est aussi grand en termes de nombre de paramètres que le groupe de Poincaré. Donc il y a 10 paramètres, mais il est différent de Poincaré. C'est en fait SO3-2, qu'on appelle aussi le groupe anti-de-Sitter. Donc SO3-2, c'est le groupe d'isométrie de la solution ADS. Donc ça c'est la métrique ADS. Et donc cette métrique, et donc ce qu'on va étudier, c'est les espaces qui sont asymptotiquement anti-de-Sitter. Donc ça va dire qu'on va considérer des métriques qui ne sont pas égales à la métrique de fond, mais qui, lorsque R tend vers l'infini, ce R-ci tend vers l'infini, s'approche de plus en plus de la métrique de fond. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les espaces anti-de-Sitter. Alors, comme dans le cas des espaces asymptotiquement plats, il faut donner des conditions précises sur Gij et Pij, concernant la décroissance à l'infini de Gij et Pij. Donc, on va avoir... Donc ce qu'on va considérer, c'est des G mu nu qui tendent asymptotiquement ce qu'on va traduire et préciser en termes des Gij et puis Pij. En fait, la courbure extrinsèque de cette métrique est nulle, donc ça doit tendre vers zéro, mais il faut préciser comment. Et là aussi. Et on va avoir, oui, peut-être je devrais être un petit peu plus précis concernant le groupe d'isométrie, enfin, ou en tout cas dans mes notations. Donc je vais avoir 10 vecteurs de Killing. Donc il y a 10 vecteurs de Killing. Donc 10, c'est un groupe d'isométrie à 10 paramètres, donc les isométries infinitésimales. C'est ce qu'on appelle, c'est engendré par les vecteurs de Killing. Donc je vais avoir 10 vecteurs de Killing indépendants, donc 10 paramètres. Et je vais appeler ces vecteurs de Killing Xi. Je ne sais pas si vous voyez à cause du... Je vais peut-être les écrire ici. Donc Killing. Et le premier vecteur de Killing, ben je vais peut-être l'appeler... il y a 10. C'est naturel d'utiliser une notation où c'est antisymétrique. Hein. Les indices, mais je ne vais pas faire ça ici. Donc je vais juste... Vous voyez qu'un des vecteurs de Killing, c'est clairement les translations dans le temps, puisque la métrique ne dépend pas du temps. Et donc on va l'appeler 1, juste parce qu'on va, lui faire jouer un rôle particulier. Donc ça c'est... Donc il y a juste une composante temporelle. Donc j'ai un groupe à 10 paramètres. Ça c'est la métrique de fond. Et donc ce qu'on... on cherche maintenant des métriques qui ne sont pas exactement anti-de-Sitter, mais qui tendent vers anti-de-Sitter à l'infini. Il faut préciser ces conditions. Ça peut se faire, c'est dans les références que je vous ai données, mais je ne vais pas chercher à le faire ici de manière précise. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les isométries d'anti-de-Sitter vont devenir les symétries asymptotiques. Donc ce n'est pas des symétries exactes, ce n'est pas des isométries de ces métriques générales, mais asymptotiquement, ça devient des symétries, et donc on va avoir comme groupe de symétrie asymptotique juste ADS. Et donc, ça veut dire, les déplacements qui définissent ces symétries asymptotiques, vont tendre vers une combinaison linéaire des vecteurs de Killing de ADS plus des termes qui tendent vers 0, sans être plus précis. Donc tout ça peut être précisé, mais l'important c'est de comprendre l'idée le reste c'est de la technique. Donc, on n'a pas des isométries exactes pour ces métriques plus générales, mais on retrouve SO3-2 comme groupe de symétrie asymptotique. Et contrairement à ce qui s'est passé et ce qui se passe dans l'espace asymptotiquement plat, il n'y a pas d'élargissement du groupe de symétrie asymptotique, c'est-à-dire que c'est exactement le même que le groupe des isométries de la métrique de fond. Donc, dans le cas des espaces asymptotiquement plats, on passait de Poincaré à BMS. Ici, on passe de SO3-2 à SO3-2. Il n'y a pas d'élargissement. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Exactement la même chose que dans le cas des espaces asymptotiquement plats pour SO3-2, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des générateurs hamiltoniens associés à chacune de ces symétries asymptotiques, et on va découvrir que ces générateurs hamiltoniens ne sont pas égaux à zéro, diffèrent de zéro par des termes de surface, qu'on calcule exactement de la même manière. Donc, je vous donne juste le résultat. Et ensuite, je vais m'attacher au problème qui m'intéresse réellement. Oui ?
Comment est-ce qu'on trouve les formations lambda BMS en partant de l'ABS s'il n'y a que SO3-2 en
cinéma ? Oui, donc comment on trouve la décroissance ? Donc quel terme on peut autoriser ? C'est ça la question. Donc ça. Oui ? C'est... Alors je vais dire quelque chose. Si ce n'est pas la réponse, tu peux reposer la question. Donc, la manière de faire, c'est de considérer évidemment d'autres solutions que ADS. On a par exemple envie d'inclure Schwarzschild ADS. Schwarzschild ADS ne va pas être donné exactement par ça, mais il va y avoir des déviations. On a envie d'inclure également Kerr ADS, donc les trous noirs tournants dans un background ADS. Ça va suggérer la forme de déviation qu'on peut autoriser. Et on va vouloir, évidemment, puisqu'on veut que ce soit asymptotiquement ADS, que ces conditions asymptotiques soient au moins invariantes pour SO3-2. C'est-à-dire qu'on va faire agir les difféomorphismes qu'on connaît. Les isométries d'ADS, on les fait agir sur une métrique qui n'a pas ces isométries, donc elle ne va pas être invariante. Donc on va engendrer les déformations vont se déformer aussi. Et on veut que ça reste dans le cadre des conditions asymptotiques qu'on est en train d'essayer de construire. Et donc, c'est un peu de l'art, mais en faisant ça, on arrive à des conditions asymptotiques de décroissance précises qui satisfont aux critères de contenir toutes les solutions intéressantes qu'on connaît, donc ADS, Kerr ADS, pour être plus précis, et qui sont invariantes pour SO3-2. Et il se fait qu'elles sont... Il n'y a pas d'élargissement de la symétrie, elles sont... juste invariante pour SO3-2, dans le cas le plus simple. Maintenant, les gens ont cherché à voir, effectivement, si on ne pouvait pas avoir un lambda ADS, donc un lambda BMS, c'est-à-dire un élargissement semblable à BMS. C'est plus compliqué, et de le faire de manière canonique avec des vrais générateurs qui ont des crochets de poisson bien définis, on n'a pas encore réussi à le faire complètement. Donc, dans ce cas-ci, on n'est pas dans la même situation que pour l'espace plat. Je ne sais pas si c'est assez la question. En tout cas, voilà. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu pour l'espace de Minkowski, c'est-à-dire que c'est vrai aussi pour ADS. Donc, en fait, à chaque symétrie asymptotique, et donc une symétrie asymptotique, c'est écrit ici. Donc, en fait, je vais avoir un générateur. Et donc ça va dépendre de la symétrie asymptotique qui va être donnée par un terme de volume. Et puis il va avoir un terme de surface. Bon, il y en a 10 qui sont indépendants dans ce cas-ci, donc c'est plus simple. Donc je vais paramétriser ça comme ça, lambda fois, disons, QA. Donc QA est donné par une intégrale sur la sphères à l'infini, des variables canoniques, d'une fonction qui fait intervenir les variables canoniques et leurs dérivés. Enfin, des valeurs asymptotiques d'ailleurs, évidemment. Et donc les dérivés, j'écris ça comme ça symboliquement. Mais qu'on peut systématiquement calculer en demandant que ceci soit un générateur bien défini et connaissant la forme d'eximu asymptotique. Donc on se donne ça, on veut que ce soit un générateur bien défini. Quand on calcule les variations, il y a des intégrations par partie à faire, elles doivent être compensées par les variations qui viennent d'ici. Et donc on a une expression qui est non nulle. Et donc ce que j'ai dit dans le cas de BMS, mais c'est vrai ici aussi, donc on va avoir 10 observables. Bon, certaines des observables correspondent à l'énergie ADS, hein, pour les trans, si je prends comme vecteur de Killing asymptotique D sur DT, ça va me donner la masse dans un espace ADM dans un espace ADS. Je vais avoir le moment angulaire, puisque c'était clairement aussi invariant par rotation. Donc y a des vecteurs de Killing qu'on voit tout de suite. Il y en a qui sont un peu plus compliqués à voir, mais chacun va donner une quantité conservée, donnée par une intégrale de surface. Et donc ce que j'ai dit dans le cas de BMS s'applique ici aussi. On va pouvoir, si je passe par exemple à la théorie quantique, je vais avoir des solutions de l'équation de Wheeler de Witt vont donner des représentations de SO3-2 parce que je vais avoir une action bien définie donnée par ces générateurs-ci sur les solutions de l'équation de Wheeler de Witt. Ils vont obéir exactement aux mêmes propriétés, mais ici il faut mettre les H que je vous ai donné là, de commuter avec les H mu, et donc ils envoient une solution de l'équation de Wheeler de Witt sur une solution de l'équation de Wheeler de Witt qui vont former une représentation. Et à nouveau, si on veut contrôler les produits scalaires, disons de manière disons raisonnable, je pense que BRST est le mieux, mais je ne vais pas développer plus BRST ici, parce que je voudrais m'attacher à un point particulier et qui est intéressant, et qui est relié à une des leçons que j'ai données tout au début, qui est le choix du feuilletage et du temps et d'une bonne condition de jauge. Bon, quand on peut le faire, ben, tant mieux, c'est une approche qui est importante à pousser aussi. Dans le cas, en fait, asymptotiquement plat et ADS, et je voudrais donc consacrer la dernière demi-heure à ce point-là. Et en fait, je voudrais vous montrer qu'il existe dans ADS, mais les idées étaient déjà apparues chez Dirac dans le cas des espaces asymptotiquement plats. Il se fait que pour ADS, on a des théorèmes. Pour les espaces asymptotiquement plats, on n'a pas des théorèmes aussi forts qui, disons, justifient ce choix du temps. Donc, je vous rappelais, j'ai dit qu'un des problèmes de la gravitation quantique, c'est que comme elle est invariante par reparamétrisation, un temps naturel, et donc un feuilletage naturel, n'existait pas. Alors c'est vrai que lorsqu'on a une zone asymptotique, on peut définir un temps asymptotique, et donc ça aide déjà beaucoup, mais on aimerait bien savoir, bon, un observateur à l'intérieur par exemple, quel temps il peut utiliser. Donc s'il y a moyen de définir un temps naturel aussi à l'intérieur, est-ce que, en particulier, on peut trouver des bonnes conditions de jauge qui permettent de définir un feuilletage particulier. Et je vous ai dit, par analogie avec Klein-Gordon, que les gens avaient pensé à utiliser le volume. Donc, je vous rappelle, si je regarde l'équation de Wheeler de Witt, donc, j'ai besoin de place, hein, comme vous le voyez. En fait, le premier réflexe, ça a été de, juste en regardant l'équation de Wheeler de Witt et en la comparant à Klein-Gordon, de définir un temps qu'on appelle intrinsèque, qui était racine de G, le volume local. Et pourquoi? Si vous regardez la contrainte hamiltonienne, elle est quadratique en les moments, Bon, puis il y a là, un terme. Bon, est-ce que vous avez une constante cosmologique? Alors je me trompe toujours dans le facteur, donc autant c'est plus 2 lambda. Donc ça c'est la contrainte hamiltonienne, mais ceci c'est une forme quadratique qui est de signature, il y a un moins, et puis... Donc, 5 plus. Et si vous comparez ça à l'équation de Klein-Gordon, dans Minkowski par exemple, il est tentant de comparer ce terme-ci à ce terme-ci et de dire, mais ici, pourquoi? Parce que la signature, il y a un moins correspondant au temps et 3 plus. Donc on a envie de dire, bon, ben ici le temps il est caché parce qu'il y a P0 qui est inclus, qui est conjugué à grand X0. Et donc ici, si on part analogie, on a envie de dire, ben, la variable qui peut jouer le rôle de temps, c'est celle qui est associée à la direction moins. Et on peut voir que les dilatations de la métrique sont précisément les transformations qui correspondent donc les changements de volume à la direction moins. Et donc les gens se sont dit, ben, c'est naturel dès lors d'utiliser le volume local comme variable de temps, mais clairement ça possède des limitations. Alors en cosmologie par exemple, si votre univers est toujours en expansion, effectivement le volume est une bonne variable, puisque donner la taille de l'univers, ça vous donne le temps. C'est une manière intrinsèque de caractériser le temps. Par contre, si vous avez un univers qui, après une période d'expansion, a une période de contraction, il est clair que le volume ne va plus être une bonne variable, parce qu'à une valeur du volume donnée, il y aura deux possibilités. Par contre, si au lieu d'utiliser le volume, vous utilisez la courbure extrinsèque et la trace de la courbure extrinsèque, bon, qui est liée à la trace de pi, donc là, il y a un facteur que je n'écris pas. Donc πj a une trace, hein, que j'appelle pi, donc ce n'est pas le nombre pi, hein, c'est la variable dynamique πii, qui est reliée à la trace de la courbure extrinsèque, comme on l'a vu. En tout cas, le problème que je viens d'évoquer pour la cosmologie est réglé parce que quand vous avez une période... Donc en fait, c'est lié, si vous regardez les équations d'Einstein, à la dérivée du déterminant. Et donc si le déterminant croît et puis décroît, donc c'est vrai, puis s'annule à un moment donné, ben, la dérivée... si on fait moins la dérivée, il y a un signe moins. Bon. Mais ça va croître tout le temps de moins l'infini à plus l'infini. Enfin, ou ça va croître tout le temps de manière monotone. Donc en utilisant une variable qui vous donne la courbure extrinsèque qui a un signe, hein, qui est positif si ça. Disons, avec les définitions, c'est positif si ça décroît et c'est négatif si ça croît. Enfin, on peut faire la distinction. Donc ça, c'est une première indication que peut-être la trace de la courbure extrinsèque, qui est donc la variable conjuguée au volume, est une meilleure variable pour fixer le feuilletage que le volume lui-même, le volume local lui-même. Et je voudrais donc passer quelques minutes là-dessus pour vous dire qu'effectivement, cet argument que j'ai donné, qui est évidemment très limité, est en fait vrai dans un cadre beaucoup plus général. Et que définir le temps à partir de variables extrinsèques, rappelez-vous, K, c'est la courbure extrinsèque, donc définir un temps qui est extrinsèque par rapport à un temps qui est défini ici en termes de la géométrie intrinsèque, c'est une meilleure idée. Et ça marche mieux. Donc c'est ce que je vais expliquer maintenant. Et je vais l'expliquer de deux manières différentes. Je vais d'abord justifier ça dans le cadre de la théorie linéarisée, et puis je vais vous dire en général comment ça fonctionne et de vous dire qu'il y a des théorèmes. Mais déjà, au niveau de la théorie linéarisée, on voit que c'est beaucoup plus naturel d'utiliser un temps extrinsèque qu'un temps intrinsèque. Bon. Alors, une autre manière d'aborder le problème du temps, et je l'avais aussi développé, je pense, à la troisième leçon, C'était par l'intermédiaire de ce que j'ai appelé les théories paramétrisées. Donc dans les théories paramétrisées, rappelez-vous, vous donnez une théorie des champs sur Minkowski, et puis vous introduisiez un peu, on introduit un peu artificiellement les coordonnées comme variables dynamiques, donc qui étaient x mu et le moment conjugué pi mu. Mais évidemment, comme on veut pas, le contenu de la théorie ne peut pas changer, il y a des contraintes, il y a une invariance de jauge qui apparaît, invariance par changement de coordonnées. Donc on paramétrise ça en termes de coordonnées x alpha. Donc tout ça devient des fonctions de phi. Mais alors on a donc des variables canoniques supplémentaires, mais on a aussi des contraintes. Et ces contraintes avaient la propriété d'être linéaires en les moments conjugués au x. Donc on avait une contrainte du style qui disait que le moment conjugué, disons, à la variable temporelle normale, ben, c'était moins l'énergie, ou moins la densité d'énergie, puisqu'on est en théorie des champs. Et puis on avait quelque chose qui disait que pour les coordonnées spatiales, c'était la densité de moment, d'impulsion, de moment linéaire. Mais donc ce qui est important, c'est que les variables conjuguées à x apparaissent de manière linéaire. Donc ça, c'était projeté dans la base, hein, mais ça fait apparaître des x, mais les pi apparaissent toujours linéairement ici. Et donc peut-être que ce qu'il faut chercher, c'est peut-être pas ce qui est quadratique ici, mais c'est où il y a quelque chose qui est linéaire. Pour avoir une structure, pour dégager une structure qui est comme celle-ci. Alors, et pour être guidé, on va se laisser guider par la théorie linéarisée. Donc la gravitation linéarisée, je vais prendre cette contrainte et je vais la linéariser autour de Minkowski. Et on va voir à quoi ça ressemble. Et puis peut-être ça va nous guider sur justement les bons choix de variables. Et puis on va traiter le cas général. Donc ça, c'est l'idée. Alors, linéariser la contrainte hamiltonienne. Donc, bon, on a déjà linéarisé dans des leçons précédentes. Donc, je vais donc linéariser autour de Minkowski. Donc, PIJ va être, dans Minkowski, c'est 0. Donc, si je dis que ma métrique, ça diffère de très peu de la métrique de Minkowski, ben, PIJ va être 0 pour Minkowski. Donc, si j'appelle epsilon, disons, un paramètre qui mesure la déviation, ça va être d'ordre epsilon. Et par contre, la métrique spatiale, donc ça va être Minkowski, plus quelque chose qui est d'ordre epsilon. Qui est d'ordre epsilon aussi. Alors vous voyez tout de suite que si maintenant je fais un développement, donc je linéarise cette contrainte, je garde les premiers termes au voisinage de Minkowski. Mais ici, je vais avoir quelque chose qui est d'ordre epsilon carré. Mais là, par contre, racine de G, par exemple, c'est la racine de la métrique unité plus 1 demi la trace de la perturbation à l'ordre epsilon, que j'appelle H, plus etc. Bon, dans la courbure ici, je vais avoir j'ai un terme qui contient les dérivés des gamma, puis évidemment un terme qui est quadratique en les gamma. Ça va être d'ordre epsilon carré, puisque les gamma pour Minkowski sont nuls. Mais il y a un terme qui est linéaire en les gamma, c'est les gamma de Christoffel. Et donc, il y aura une contribution linéaire ici aussi. Donc vous voyez que la partie linéaire en la perturbation, elle n'est pas là, elle est ici. Bon, alors, si on développe la courbure... Donc, je vais tout de suite vous donner la courbure à l'ordre linéaire. Bon, c'est assez facile à calculer. Ça va être moins dm dn hmn plus le laplacien de h. Donc ça, c'est moins la courbure. Et puis éventuellement, s'il y a un terme cosmologique, plus lambda h égale à 0 à l'ordre epsilon. Donc à l'ordre le plus bas... Voilà ce que ceci nous donne. Ça, c'est epsilon carré, donc il tombe. La courbure à l'ordre epsilon avec le signe moins, c'est ce que je vous ai écrit là. Et ceci, vous obtenez la trace de... Donc H, c'est la trace de... H, c'est la trace. Hein. Je ne le dis pas toujours, mais donc HIJ, H, c'est par définition delta IJ, HIJ. Alors, ceci... On aimerait bien le mettre sous une forme qui ressemble à ce qui est écrit là. Et pour ça, je vais isoler la trace de H. Bon, c'est-à-dire, je vais écrire que HMN, c'est un H tilde MN sans trace, plus un tiers fois la trace, delta MN fois la trace. Et donc la trace de H tilde sera nulle, de manière à ce que la trace de H soit bien la trace de H. Donc je décompose HMN en une partie sans trace, plus une trace pure, et là j'ai 5 degrés de liberté, et j'en ai un ici. Si j'insère ça dans l'équation là, je vais obtenir moins dm dn h tilde mn. Alors je vais avoir la trace ici c'est pardon. Donc je vais obtenir aussi moins un tiers fois le laplacien de h plus le laplacien de h. Donc j'aurai plus deux tiers laplacien de h plus lambda h égale à 0. Alors, si j'intègre ceci sur le volume, en fait, ça va me donner au premier ordre l'énergie ADM. Donc ce terme-ci ressemble très fort au terme qui est là. Et donc, bon, si la constante cosmologique était nulle, ce serait... on a envie de dire que ceci, c'est le moment conjugué au temps. Parce que ça... ça fait penser à ça. Enfin, c'est l'analogie si je les compare. Et donc, par comparaison, on va dire, ah, mais donc il est plus naturel de prendre un temps qui est la variable conjuguée à H, pour être plus précis, à laplacien de H. Et qu'est-ce qui est conjugué à H ? Qu'est-ce qui est conjugué à la trace de HIJ ? Ben, c'est la trace de PIJ, c'est-à-dire pi. Bon, il y a peut-être des facteurs à mettre, des signes à mettre, mais disons, je vous donne juste l'idée ici. Hein. Et puis, on peut, après tout ça, peut se mettre formalisé en étant précis à propos des signes et des facteurs, bien entendu, il faut. Hein. Mais disons, on voit que si je compare ces équations, là, H apparaît plutôt comme étant le moment conjugué au temps. Et donc, on va explorer la possibilité, alors pour être tout à fait précis, puisqu'il y a un opérateur différentiel, c'est plutôt le laplacien inverse de pi qui est conjugué au temps. Et donc, si on impose une condition du style laplacien inverse de pi égale au temps, ça veut dire que pi va être égal à 0. Donc, ce qu'on va explorer maintenant... on va essayer de comprendre si la condition pi égale à 0, qu'il faudra compléter par des conditions asymptotiques qui tiennent compte du fait qu'on peut avancer. Bon, ça va être aussi le temps asymptotique hein, par construction. La question qu'on va se poser, c'est étant donné que je connais une surface, la manière dont elle doit se comporter asymptotiquement, est-ce que je peux compléter à l'intérieur de manière unique cette donnée asymptotique par une hypersurface qui obéit partout à pi égale à 0. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que pi égale à 0 est une bonne condition de coordonnées pour fixer la liberté de jauge associée à ceci. Donc je vous ai donné des motivations, donc je n'ai rien démontré pour le moment, hein. Donc il n'y a pas de théorème, donc il y a juste que c'est plus naturel, en tout cas si on part de la gravitation linéarisée, de considérer une condition de jauge qui fixe pi plutôt que g. Et donc, les gens ont exploré cette possibilité. Donc l'idée, c'est la suivante, donc je reprends. Donc il faut se donner des conditions asymptotiques. Donc l'idée, c'est je donne un comportement asymptotique. Je considère des hypersurfaces dont le comportement asymptotique est connu. Donc on peut faire ça en regardant, on connaît. Donc par exemple, on en choisit une et puis on se donne xi perpendiculaire et xi k. Donc on se fixe le comportement asymptotique et on veut voir si parmi toutes les hypersurfaces ayant ce comportement asymptotique, il en existe une telle que pi soit égal à 0. C'est un problème que les mathématiciens ont analysé. Mais en toute généralité, donc non pas dans le cadre de la théorie linéarisée, donc là c'est trop facile, mais ils se sont posé la question, on veut trouver une solution des contraintes qui obéit aussi à pi égal à 0. Et est-ce que ça fixe l'hypersurface de manière unique? Et il y a des théorèmes qui existent, et le théorème le plus fort qui garantisse que c'est une bonne condition ont été démontrés dans le cadre de anti-de-Sitter. Et il y a des conditions supplémentaires à mettre, par exemple sur le domaine de dépendance qui doit être compact, donc c'est un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, les théorèmes les plus forts ont été construits dans le cadre de ADS et justifient, dans ce cas-là, un tel choix de feuilletage. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus ici parce que ça m'embarquerait dans des calculs trop longs, mais je vais quand même juste vous donner un argument supplémentaire en faveur de la condition pi égale à 0. Quand on a une bonne condition de jauge, une manière de voir si on a une bonne condition de jauge, c'est d'effectuer un difféomorphisme et de dire si on veut préserver la condition de jauge, le seul difféomorphisme qu'on peut faire, c'est le difféomorphisme identique, c'est-à-dire ne rien faire. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre cette condition et on va regarder comment elle se transforme si je fais une déformation par un champ de vecteur xi perpendiculaire xi k. Je peux calculer delta xi perpendiculaire xi k de pi. Bon, alors xi k, on ne va pas le regarder parce que bon, là, je n'ai pas dit comment fixer les coordonnées spatiales. Bon, en fait, les coordonnées spatiales, peut-être juste un mot, comme la contrainte hamiltonienne, donc ceci ça doit être complété par la contrainte hamiltonienne, elle est linéaire en les moments conjugués. Il est naturel de fixer les coordonnées spatiales par des coordonnées, par des conditions sur les H, par exemple les coordonnées harmoniques. Donc regardons juste la partie intéressante, c'est xi perpendiculaire. Alors si vous regardez la manière dont pi se transforme, vous allez voir apparaître le laplacien de xi perpendiculaire, plus des termes, mais c'est le terme important. Et donc si vous imposez que ceci soit zéro et vous posez la question, est-ce que xi perpendiculaire est uniquement défini? La réponse va être oui, xi perpendiculaire doit être égal à zéro, pour autant qu'on impose que xi perpendiculaire soit nul à l'infini, mais ça revient à se fixer l'endroit où se trouve l'hypersurface, enfin, où asymptotiquement on doit atterrir. Donc si vous donnez asymptotiquement l'hypersurface vers laquelle on doit tendre, et vous donnez en plus cette condition-ci, bon, comme j'ai dit, il y a des théorèmes qui démontrent l'existence et l'unicité, mais une manière de comprendre ou de gagner de l'intuition, c'est de regarder ce qui se passe pour un difféomorphisme infinitésimal et de demander que la condition de jauge soit préservée. Et on peut voir que si le difféomorphisme infinitésimal doit tendre vers 0 à l'infini, alors il doit être nul, partout. Bien, donc je regrette un peu de ne pas pouvoir développer ça beaucoup plus, mais c'est clair que ce n'est pas en 10 minutes que je peux le faire. Donc je vous ai donné des références assez détaillées, y compris pour les théorèmes mathématiques, puis l'utilisation dans le cadre physique. Et donc je vais devoir m'arrêter ici. Je vais peut-être juste ajouter une chose, c'est qu'évidemment, donc ce qu'on se donne, c'est la partie asymptotique. Et donc, les données asymptotiques, ben, on peut faire agir dessus le groupe d'anti-de-Sitter. Donc, vous prenez une hypersurface qui est asymptotique à des données qu'on s'est données à l'infini. Et puis, vous pouvez faire varier avec anti-de-Sitter ces données. Et vous allez chaque fois construire une hypersurface qui remplit ces conditions. Et donc, vous allez avoir une famille privilégiée d'hypersurfaces sur lesquelles agit le groupe anti-de-Sitter. Et qui obéissent à pi égale à 0. Alors pi égale à 0, ça veut dire que le volume est localement maximum, puisque pi c'est conjugué à g. à la variable locale G ou racine de G. Donc c'est ce qu'on appelle parfois des hypersurfaces maximales. Et on va avoir, donc on va avoir que le temps est décrit par pi et sa variable conjuguée, le volume. Et donc qu'est-ce qui va rester? En fait, j'ai déjà donné des indications ici. Au niveau linéarisé, c'est la partie sans trace. Mais en termes de la métrique, ça va être une métrique de volume 1. Et donc, en fait, vous voyez que ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle la géométrie conforme. Puisque deux géométries qui diffèrent par un facteur conforme vont donner les mêmes h tilde mu nu. Et donc, on a une décomposition naturelle quand on utilise ce temps en termes de géométrie conforme et courbure extrinsèque. Et la géométrie conforme, ce sera vraiment la géométrie qui compte, puisqu'il y a une invariance pour les différents morphismes d'espace. Ça, c'est toujours là. Bien, alors, donc je vais terminer sur ces notes qui deviennent... sur ces commentaires qui deviennent de plus en plus impressionnistes, inversement, de manière directement liée au peu de temps qui reste. Donc, je ne vais pas ajouter beaucoup plus, oui, sinon peut-être on peut répéter ce que j'ai dit pour l'équation d'Euler de Witt. On peut écrire une équation d'Euler de Witt qui dépendrait donc de la géométrie conforme, puisqu'on a fixé le reste ici. Mais Euler de Witt a été résolu. Donc c'est pas une équation d'Euler de Witt qu'on va écrire, c'est une équation qui dépend des gamma ij de déterminant 1 et qui satisfait à cette condition d'invariance. Invariance par difféomorphisme. Et on aura le groupe ADS qui agit dessus. Bien, donc je ne vais pas en dire plus, faute de temps, malheureusement, mais donc j'espère que ça vous donne l'idée qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, en tout cas. Et donc je vais conclure le cours en disant que j'ai essayé de vous montrer dans ce cours qu'au-delà des problèmes qu'on mentionne toujours, de la gravitation qui n'est pas renormalisable de manière perturbative, il y a aussi des problèmes conceptuels très importants concernant la gravitation quantique. Et ces problèmes conceptuels, c'est d'une part le problème du temps dont j'ai parlé, c'est le problème du produit scalaire. Je vous ai montré aussi que pour les espaces fermés, pour les espaces ouvert, pour reprendre la terminologie des physiciens, les problèmes ne se posaient pas toujours de la même manière, puisque dans les cas des espaces fermés, il n'y a pas d'énergie, il n'y a aucune quantité conservée donnée par des termes de surface. Donc c'est en un sens plus compliqué d'extraire la physique que dans le cas des espaces ouverts, où on peut en tout cas, à l'aide de la structure asymptotique, dégager des choses. Et je vous ai aussi en particulier montré que pour les espaces fermés, si on perturbe autour d'un espace à isométrie, on a des contraintes quadratiques qui apparaissent. Mais donc la conclusion générale, c'est que même si la théorie d'Einstein doit être complétée pour être cohérente au niveau quantique, parce qu'il y a ces divergences ultraviolettes notamment qu'il faut renormaliser, il y a des problèmes conceptuels fort importants liés à l'invariance par difféomorphisme qui sont présents et qu'il faut également comprendre. Et c'est sur ces problèmes que le cours de cette année a porté. Donc avec cela, je vais terminer. Donc, c'était la dernière leçon. Donc merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.